France Inter, le 18-20.
Dès qu'on parle de moins de prison, on entend le mot laxisme monter depuis certains bancs politiques parce qu'évidemment, enfermer les délinquants, au fond, c'est la solution de facilité qui satisfait tout le monde, hein, puisqu'il va en prison, il est puni, puis c'est la fin de l'histoire. Sauf que dans les faits, évidemment, tout cela, c'est bien plus compliqué parce que les peines très courtes sont rarement effectuées dans les temps, parce qu'il existe des aménagements de peine, déjà les tiges, les travaux d'intérêt général, mais qu'entre le prononcé de la peine, le temps du tige, là encore, il s'écoule beaucoup trop de temps, et puis quel travail pour quel délit, tout cela ne coule pas de source. Ce que propose le gouvernement en ce moment, il y a des choses qui pourraient en faire sursauter plus d'un, vous allez nous le dire et on verra bien. La fin des peines de prison de moins d'un mois, jusqu'à 6 mois, la possibilité d'exécuter sa peine loin d'une prison, plus de peines alternatives, une explication immédiate du tribunal aussi en cas d'aménagement de peine. Bref, moins de prison pour certains, plus de prison en revanche réellement effectuée pour d'autres. Et si pour punir mieux, finalement, on enfermait moins. Et si on rendait du sens à la justice en donnant du sens à la peine, on en parle ensemble ce soir, c'est maintenant. Bienvenue.
Fabienne Saint-Esse. Le téléphone sonne.
André, c'est vous le premier, soyez le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir à l'équipe et aux auditeurs. Je trouve à nouveau ces projets de réforme complètement ridicules. On essaye de mettre des rustines sur un système qui est complètement carencé au niveau budgétaire. Et on essaye par des petites solutions à faire face aux résultats de 30-40 ans d'insuffisance du budget de la justice et une situation du système pénitentiaire absolument indigne. Je rappelle que l'Europe nous a déjà condamné à plusieurs reprises pour ce système indigne. D'autre part, on est quasiment avant-dernier des 27 pays pour le budget par tête d'habitant. Donc, les politiques continuent à dire « bon, ben, faut trouver une petite solution ». Et quant à dire, alors, les peines de prison, pas de peine de prison, moins d'un mois... Mm-hmm. C'est une bêtise parce que moi, j'ai été magistrat. Je peux vous dire que, premièrement, l'emprisonnement, ça n'arrive pas à la première infraction. Généralement, ce sont déjà des récidivistes. Deuxièmement, précisément, c'était un échelon. Moi, on prononçait une petite peine de prison de 15 jours. Ça leur permettait de voir ce qu'était l'emprisonnement et je pense que c'était suffisamment dissuasif pour certains, car il y a évidemment ceux qui sont absolument incontrôlables et qui recommenceront. Alors maintenant, on interdit les peines de mettre des peines d'un mois, ben les magistrats mettront un mois et demi. Donc c'est complètement contre-productif.
André, pardon.
Deuxièmement, allez-y vite, André. Ce qui permet de dire, c'est que les peines alternatives, le tige, les amendes, des stages de citoyenneté et autres, c'est bien joli, mais les moyens pour les mettre en place, pour en avoir, trouver des terrains de travail d'intérêt général, faut-il qu'il y en ait ? Et il y en a, on en trouve de moins en moins. Les agents de services pénitentiaires avec le juge d'application des peines qui sont chargés de mettre en œuvre, on va augmenter leur effectif ? Mais... rien du tout. Donc, on continue à faire le buzz par quelques petites mesures et puis après on oublie et on continue à maintenir la justice dans un état de pauvreté que l'Europe condamne régulièrement.
Merci beaucoup André, parce que grâce à vous, on a tous pris des notes en vous écoutant, on fait le tour du problème, donc on se contentera d'une question ce soir, et ce sera la vôtre. Merci beaucoup, vraiment, parce que vous entamez formidablement bien le débat, pour vous répondre ce soir et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Julia Minkowski est là, bonsoir. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris, vous êtes chargée de mission par la garde des Sceaux pour réfléchir justement au sens et à l'efficacité des peines. Céline Parizeau est là également, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Christophe Barret est avec nous en duplex depuis France Bleu Hérault à Montpellier. On salue nos confrères et nos amis au passage. Bonsoir, monsieur Barret.
Bonsoir, madame.
Procureur de la République de Montpellier, puis Sarah Guibaudot est avec nous aussi, journaliste au service enquête et justice à France Inter. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses dans cette question d'André. Tiens, Céline Parisot, commençons avec vous sur, moins d'un mois, voilà, pardon, je suis en train de chercher dans tout ce que j'ai noté sur ce que nous disait André, où on allait pouvoir commencer. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs des peines réellement de moins d'un mois?
Il y en a même beaucoup. De moins d'un mois ou un mois, il y en a beaucoup, peut-être d'ailleurs beaucoup trop, parce qu'effectivement on n'a jamais vraiment réfléchi à l'efficacité de ces très courtes peines. Et en tout cas, il a jamais été démontré leur efficacité. Donc, leur suppression, pourquoi pas?
Ni le taux de récidive après les très courtes peines, etc. Tout ça, c'est pas, on n'en sait rien en fait.
Sur les peines de moins d'un mois, quelques chiffres, d'après ce que nous dit le ministère de la Justice, c'est 10 000 peines prononcées chaque année, mais bon nombre d'entre elles sont exécutées. Donc en fait, dans les prisons actuellement, il y aurait 270 détenus qui purgent une peine de moins d'un mois, donc sur 80 000 détenus, c'est totalement négligeable. Enfin, en tout cas, le problème de la surpopulation carcérale n'est pas là.
Céline Parisot, je vous ai interrompu, pardon, vous vouliez finir?
Non, ce que je disais, c'est qu'effectivement, c'est pas du tout négligeable. On a 10 000 peines d'un mois ou moins. Donc ce sont des peines qui soit sont exécutées en détention, mais là effectivement c'est marginal, soit sont aménagées, donc ça demande énormément de travail pour finalement des peines extrêmement courtes, donc on peut tout à fait penser tout de suite à autre chose.
Mais dissuasif aussi, André semblait dire qu'il y avait un petit côté dissuasif quand même, surtout si c'est la première, j'imagine.
Objectivement, il n'y a pas de démonstration du caractère dissuasif qui ait pu être fait.
On va poser la question à Christophe Barret, qui est procureur de la République. Est-ce que c'est dissuasif, un mois de prison, monsieur le procureur, ou pas?
Mais, comme le disait votre auditeur tout à l'heure, la question est complexe. Pour certains, ça peut être dissuasif, mais aujourd'hui, le principal problème, c'est que, même si ça concerne 270 détenus aujourd'hui, à un instant T, ce sont les conditions dans lesquelles ils vont exécuter ces quelques semaines ou éventuellement quelques jours de prison. Et je ne suis pas certain, d'abord, si on supprime cette possibilité d'incarcération jusqu'à un mois, on ne videra pas les prisons. Sarah Guibaudot le disait, 270 détenus sur 70 000. Et je ne suis pas certain non plus qu'on perdra véritablement en efficacité.
Julien Minkowski, puisqu'on finit le tour de table, 270 détenus, effectivement, ça fait pas lourd, on va dire, par rapport à l'ensemble de la population carcérale.
Alors, ça fait pas lourd, mais c'est déjà quelque chose. Et puis, ça s'accompagne évidemment d'autres mesures que nous allons évoquer ensemble ce soir. Alors, d'où vient l'inspiration de cette mesure? C'est une inspiration allemande. Je crois qu'il faut être pragmatique. C'est ce que monsieur le procureur vient nous expliquer. Dans quelles conditions sont exécutées ces peines d'un mois? Moi, je veux bien que ce soit dissuasif. Mais enfin, quand on a une surpopulation avec les taux que l'on connaît en moyenne de 140%, à quoi va servir, quel sera le sens de cette peine de prison? Vous avez des gens qui vont aller en prison, qui vont certainement perdre leur travail s'ils en avaient un, perdre du temps dans la formation s'ils en suivaient une, rompre peut-être les liens familiaux. Quel est le sens de cette peine? Donc l'idée, c'est aussi de partir, c'est un point de départ, c'est de dire il n'y aura plus de peine de moins d'un mois. Et puis après tout, la prison, et c'est la première fois qu'un président de la République vient le dire de façon aussi nette, je crois qu'il faut quand même saluer ça, qui vient dire voilà, la prison, ça a un sens pour certaines personnes, mais dans la plupart des cas, ce qu'il faut, c'est chercher à l'éviter. On doit mettre en prison que les personnes pour lesquelles c'est absolument indispensable. Je ne crois pas qu'il soit jamais indispensable de passer quelques jours en prison. Surtout, soyons pragmatiques, au regard de l'état de nos prisons.
Je voudrais en profiter pour tordre le cou à une idée reçue ou pas, parce qu'on entend beaucoup ici et là, mais de toute façon, ces petites peines ne sont jamais effectuées. Est-ce que, oui ou non, ces petites peines-là sont toujours effectuées, quoi qu'il arrive? Alors peut-être avec effet retard, pour bien des raisons que vous allez peut-être nous expliquer, Céline Parisot, mais est-ce que toutes ces peines-là sont bien effectuées?
Elles sont effectivement effectuées comme les autres. On fait pas de tri, sauf vraiment dans des circonstances extrêmes où on retrouve pas les gens, où la peine se prescrit parce qu'on a mis beaucoup trop de temps à les retrouver. Pour des raisons procédurales diverses, mais c'est quand même l'exception. La plupart du temps, toutes les peines sont effectuées, même si, effectivement, elles ne sont pas en détention. Madame Guibaudot rappelait bien que c'est 270 sur, finalement, 10 000 pour les peines de moins d'un mois. Cependant, elles sont effectuées, même avec retard, parce qu'effectivement, c'est très, très long, actuellement, d'effectuer des peines d'emprisonnement assez courtes, puisque si la personne n'est pas envoyée en détention tout de suite après l'audience, la règle veut qu'on examine son dossier pour voir si un aménagement de peine est possible. Et c'est une procédure qui a beau être cadrée au niveau procédural dans le code de procédure pénale pour que ça dure pas plus de 6 mois, bah concrètement, des fois, ça dure 2 ans, quoi. Hein. Donc, on exécute sa peine 2 ans
ça
après.
Ça veut dire qu'on peut faire un TIGE 2 ans après un travail d'intérêt général,
Effectivement, un TIGE comme un aménagement de peine ou une conversion de peine, oui, ça peut être 2 ans après la condamnation. Et c'est beaucoup trop long, c'est pas du tout satisfaisant. Mais on a un vrai problème de moyens pour mettre à exécution ces peines.
Alors justement, on va y venir dans un instant. Je voudrais qu'on fasse quand même un aller-retour au standard. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu Étienne, on vous écoute. Allez-y.
J'ai un certain nombre de choses à dire. Moi je pense que c'est un excellent projet de rendre les peines efficaces, hein, pour en finir avec la prison. Le pays n'a rien à gagner à mettre des petits délinquants en prison. Alors bien sûr, il y a les victimes, et donc il doit y avoir des sanctions. Mais mettre les jeunes gens, hein, parce que c'est souvent des jeunes, en prison, c'est fabriquer des durs, des gens dangereux. Or, la prison, normalement, c'est pas fait pour ça. Alors, instaurer des peines alternatives, à mon avis, c'est protéger les Français, et c'est protéger aussi les petits délinquants avec. Il y a 3 avantages. D'abord, on lutte contre la récidive, à mon avis. On n'endurcit pas les primo-condamnés, et on répond quand même aux victimes. Parce que chacun doit comprendre que plus la justice soupèse, projette les peines dans l'avenir, et mieux elle nous sert. Parce que c'est nous qui payons les prisons, hein. Et donc, par exemple, vous prenez un jeune qui a arraché le sac d'une vieille, hein, et bien la petite vieille, éventuellement, elle s'en remet. Hein, mais vous envoyez ce jeune dans un EHPAD et vous le faites bosser 3 mois, ce qui peut correspondre à une peine de prison en correctionnel. Et il va comprendre, parce que il faut donner à voir aux victimes que la personne, elle est condamnée. Ça, c'est sûr et certain. S'il n'y a pas de réponse, c'est lamentable et c'est pas la justice. Il faut aussi donner à voir aux délinquants la souffrance des gens. Et il faut fabriquer de l'empathie.
Merci.
Si vous fabriquez de l'empathie chez un délinquant qui est jeune et qui est un primo-délinquant, vous aurez réussi, vous aurez aussi, à mon avis, l'accroche. Et évidemment que la prison ne peut pas être une réponse pour ces gens-là.
Merci beaucoup, Étienne, pour cette remarque. Dans ce que dit Étienne, je vous pose la question à vous, Christophe Barré. On reviendra la poser à Julia Minkowski dans un instant. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, parce que effectivement l'idée est bonne, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de donner une peine, quelle qu'elle soit, qui est en adéquation avec le délit qui a été commis? Est-ce qu'on a les moyens de faire ça aujourd'hui avec la justice telle qu'elle fonctionne?
Alors, oui, on a les moyens, mais je voudrais un peu reprendre ce que vient de dire Étienne. D'abord, je ne peux pas laisser sans réagir ce qui vient d'être dit, que la victime, la personne âgée, je prendrai cette expression qui
s'en remet toujours,
plus respectueuse,
a dit Étienne.
Qui, voilà, non,
pas toujours,
il y en a
évidemment
qui ne s'en remettent jamais. Voilà, mais la justice, ça n'est pas seulement répondre à la victime, c'est apporter la paix sociale. Donc la justice, elle est rendue bien sûr par la victime, elle est aussi bien entendu rendue pour celui qui est suspect, qui va comparaître et qui va être condamné, et puis elle est rendue pour chacun de nous, c'est ce qui apporte la paix. Ce que disait Étienne, et qui était juste, et qui était d'ailleurs dit par l'auditeur précédent, André, c'est qu'on a un système qui n'est pas compris. André comme Étienne vous disait qu'on ne fait rien. Ce n'est pas vrai. On fait beaucoup de choses. Statistiquement, d'ailleurs, la justice n'a jamais autant répondu qu'aujourd'hui. Elle n'a jamais été aussi réactive. Elle n'a jamais apporté de réponse aussi adaptée aux situations individuelles. Et pourtant, on a l'impression qu'elle ne répond pas. Pourquoi ? Parce que elle fonctionne notamment sur l'exécution des peines, notamment sur 3 principes. Le premier, c'est le différé de l'exécution de la peine, dans le cas général. Le deuxième, c'est que les conditions d'exécution de la peine sont souvent rendues dans des audiences qui ne sont pas publiques. Mmh. Et le troisième, c'est qu'il y a une certaine incertitude sur la réalité de la peine qui sera exécutée. Donc le projet qui est présenté aujourd'hui par le gouvernement apporte des réponses en ce sens. Et c'est une bonne chose pour lutter contre cette incertitude et ce différé qui donne le sentiment qu'on ne répond pas, alors qu'il n'y a jamais eu autant de personnes en prison, on le sait.
Mais encore une fois, je repose la question, je vous la pose à vous, Céline. Par raison, on fera le tour tout à l'heure. Est-ce qu'on peut réellement, à la sortie d'une audience, dire directement à une personne qui a été condamnée vous ferez tel genre de travail, vous ferez tel genre de choses, etc. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça?
C'est extrêmement difficile. On n'a pas réellement les moyens de le faire parce que d'une part, on manque de temps à l'audience pour pouvoir en discuter. Ça, c'est clair. Et c'est pas quelque chose qui va changer, malheureusement. Et d'autre part, on a une enquête qui concerne essentiellement les faits commis. le préjudice subi par la victime, mais pas tellement la personnalité de l'auteur et son milieu social, son logement, son travail éventuel, ses recherches d'emploi, tout ça on l'a pas. Et c'est pour ça qu'on diffère l'exécution, voilà, et que c'est le juge d'application des peines qui va recueillir tous ces éléments et qui va pouvoir déterminer exactement comment la peine de prison, puisqu'on parle de ça, comment la peine de prison va s'effectuer, est-ce qu'elle va s'effectuer en prison ou sous une autre forme, éventuellement un travail d'intérêt général, on en parlait.
Comment on fera, Julien Minkowski, pour que ça se passe au tribunal, ça, si effectivement il n'y a pas l'enquête avant, si du coup on n'a pas été d'abord et en amont chercher, je ne sais pas, quelle entreprise pour l'accueillir en tige, etc. Comment ça marche?
Alors, il y a plusieurs choses, puisque le constat qui vient d'être fait par monsieur le procureur est tout à fait exact. Nous avons procédé dans le cadre de la mission qui m'avait été confiée avec le magistrat Bruno Cotte un certain nombre d'auditions et il y a un consensus absolu de l'ensemble des acteurs sur le fait qu'une peine qui a un sens est une peine qui est individualisée. Mmh. Alors, pour mieux individualiser les peines, puisque j'entends ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait exact, il y a un manque dans les enquêtes. Donc déjà, on pourrait commencer par pallier ce manque en amont. Et puis, on dispose aussi d'informations au fil des procédures, parce que malheureusement, une personne, quand elle comparaît devant un tribunal, alors il y a une première fois à tout, mais enfin souvent, c'est quand même pas la première fois qu'elle vient. Et c'est un peu dommage qu'il y ait une déperdition des informations.
Il faut bien commencer quelque part, hélas, c'est comme ça que ça marche.
Il y a une déperdition des informations qui est très regrettable et qui est préjudiciable avant tout pour la personne qui comparaît. Donc c'est pour ça, et ça a été annoncé par le président de la République, que le dossier de personnalité qui existe déjà pour les mineurs et qui contient des informations justement sur la personnalité du prévenu qui comparaît, sera mis à la disposition du tribunal, évidemment avec toutes les garanties qu'on doit mettre au recueil d'informations individuelles. Ça ne pourra être accessible qu'à la justice, au tribunal, pas aux enquêteurs, etc. Mais ça, c'est une première chose qui va être très importante et une information capitale pour le tribunal.
Il y a une chose que vous avez dit qui m'intrigue. Ça veut dire que même en cas de récidive, quand on parle d'aménagement jusqu'à 6 mois, même en cas de récidive, comme ça au passage, je vous pose la question.
Oui,
c'est même en cas de récidive, d'accord.
Oui, mais il n'y aura plus de différence. Enfin, il n'y en a déjà pas en dessous de 6 mois, en dessous d'1 an, il n'y en a pas, mais actuellement, les aménagements de peine, c'est jusqu'à 1 an, y compris pour les récidivistes, c'est jusqu'à 2 ans pour les non-récidivistes. Le projet, ce serait de ramener tout le monde à 1 an, ce qui permet une unification plutôt bienvenue, je dois dire, c'est plus simple.
D'accord.
Voilà. Par ailleurs, là je reviens à ce que disait André au début, il a été annoncé la création de 1100 postes pour les conseillers d'insertion et de probation, donc ils pourront mieux faire leur enquête. Il sera prévu au stade de l'instruction, parce que là on parle des peines, mais il y a aussi évidemment la question de la détention provisoire. On a aujourd'hui 20 000 personnes qui sont en prison alors qu'elles n'ont pas encore été condamnées, avec dans les maisons d'arrêt des taux de surpopulation records. Sera obligatoire lors du renouvellement, par exemple, de la durée de la détention provisoire, si l'avocat compte demander le placement sous bracelet électronique, eh bien, il y aura une enquête systématique qui sera faite de faisabilité pour que, en effet, le magistrat dispose et qu'on ne perde pas à chaque fois du temps pour tout ça. Ensuite, si à l'audience, le tribunal considère qu'il n'a pas assez d'informations, il peut toujours ajourner la peine, c'est-à-dire, alors, on va me dire, il y a peu de temps, etc. Donc, ça va être, en effet, aux tribunaux de s'organiser au mieux. Mais enfin, l'ajournement de la peine, c'est assez peu utilisé pour simplement étudier la personnalité. Mais il faut encourager cela et les nouveaux SPIP qui sont mis à disposition.
Les SPIP, pardon.
Conseillers d'insertion et de probation.
Ah, oui. Okay. Pourront effectuer ces nouvelles enquêtes pour que la peine soit prononcée plus tard. Pour terminer, le tribunal pourra toujours renvoyer au juge d'application des peines s'il estime ne pas avoir assez d'informations, donc pour les peines de moins de 6 mois. On a vu que, et ça aussi c'est important parce que vous me parliez des peines de moins d'un mois, mais il y a aussi ce renversement de principe et vraiment de dire en dessous de 6 mois, on ne prononce pas non plus de prison, même si ce n'est pas interdit comme les peines de moins d'un mois, mais enfin ça va quand même être le principe. Et entre un an, au-dessus d'un an, il n'y a plus cette systématisation de l'examen de l'aménagement. Mais en revanche, il y a cette création du sursis probation qui permet, je termine juste sur
rapidement.
Qui permettra au tribunal de prononcer des obligations de sursis très précise et beaucoup plus fine. Et s'il ne dispose pas assez d'informations, il demandera au JAP de préciser ces modules-là.
Pardon, mais j'entends toujours ronronner l'usine à gaz. Excusez-moi de le dire comme ça, mais j'entends toujours ronronner l'usine à gaz quand vous me racontez ça. Céline Parizeau, vous pour l'USM. Est-ce que vous avez l'impression qu'on simplifie des choses ou est-ce qu'au contraire, pas tellement?
Il y a un certain nombre de propositions qui vont effectivement dans le bon sens, qui simplifient ce qui existe aujourd'hui. Nous, la difficulté majeure qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, c'est le temps à l'audience. Ça, il ne va pas augmenter. Il n'y a rien qui change. Et puis les recrutements de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qu'on nous annonce, alors là on rit jaune, ce sont des recrutements qui sont annoncés depuis 2015, tout simplement pour permettre à ces services-là de réaliser dans des conditions correctes la charge de travail qu'ils ont actuellement. Donc on a un vrai problème, on n'a pas assez de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, on en manque absolument cruellement, et si on ne retarde pas de quelques années, à minima, la mise en œuvre de ces réformes, de toute façon, on va à l'échec. C'est clair, on n'aura pas de conseillers pour nous faire les enquêtes préalablement à l'audience, donc on sera dans la même situation qu'aujourd'hui au final.
Sarah Guibaudot ?
Non, juste une parenthèse sur la question des moyens qui est effectivement essentielle. Donc dans la loi de programmation en avril, on verra ce qu'il en est, il y a des postes annoncés. Bon, mais la situation actuelle, c'est quoi quand même ? C'est que les conseillers d'insertion et de probation, ils nous disent souvent, les juges ne veulent pas prononcer des peines alternatives, parce qu'en fait, ces peines alternatives, il faut un suivi derrière. Mmh. Et ils savent que nous, on n'est pas en mesure de suivre. Et on a vu des juges d'application des peines, notamment à Évry, nous dire récemment, quand quelqu'un est condamné à une peine de sursis mise à l'épreuve, ben nous, on n'a même pas le temps de le voir, que son sursis, il est déjà fini.
Raphaël est au standard au 01 45 24 7000. Bonsoir Raphaël.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors, moi je souhaitais témoigner en fait parce qu'en 2002, donc j'étais incarcéré pour la première fois et pour la seule fois de ma vie pour des délits relativement graves et pour une peine qui a été finalement très légère de 27 jours que j'effectuais en détention dans une maison d'arrêt. Malgré le constat que j'ai fait de la détention et de toute la détresse qui y régnait, ainsi que tous les manques de l'administration pénitentiaire et de toute l'horreur que ça représente. Pour ma part, malgré tout, au final, vu la peine très légère j'ai été condamné à une peine très légère par rapport au fait qu'elle avait été commis, finalement, dans mon cas, le bilan était très positif.
Ça vous a calmé, visiblement, Raphaël.
Pardon ?
On comprend que ça vous a calmé, en fait.
Voilà, tout à fait, exactement, c'est ça. Alors qu'avant, j'avais un regard complètement différent sur les actes que je commettais, parce que j'en ai commis d'autres avant. Et cette peine-là, finalement, était très, très instructive et finalement, très efficace pour ma part.
Est-ce que ça veut dire que vous préférez, en fait, c'est ça que vous dites, en fait, vous préférez, on va mettre des guillemets là-dedans, avoir fait de la prison, des jours de prison, plutôt qu'un travail d'intérêt général, en fait, qui vous aurait maintenu hors de la prison?
Je pense en effet qu'un travail d'intérêt général n'aurait eu aucun effet sur ma part, sur moi-même. Parce que c'est finalement le travail d'intérêt général, selon comment il est effectué, selon le délai qui va se produire entre le moment de la condamnation et le moment d'effectuer la peine, etc. Souvent, c'est très long. Le problème est là, c'est-à-dire que au-delà de la détention, au-delà des condamnations, il y a le problème de l'application des peines. Et ça a toujours été un souci. Et c'est toujours un souci. Et c'était déjà un souci à l'époque. Moi, j'ai été condamné, c'était en 2002. Mmh. Et à l'époque, il y avait déjà un gros souci. Et aujourd'hui, je vois que c'est toujours le cas. Donc, comme ça traîne derrière des condamnations qui sont peu appliquées, voire pas appliquées, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet en réalité, je pense.
Merci beaucoup.
Je pense par contre que la prison est une très mauvaise réponse à beaucoup, beaucoup de délits et est une école de la délinquance. Ça, c'est une autre question, mais qui est réelle.
Merci beaucoup.
C'est-à-dire que les gens qui rentrent en détention sans aucun projet de crime, par contre, peuvent ressortir avec des tas d'opportunités et des tas d'idées qu'ils n'avaient pas avant. Voilà.
Merci beaucoup.
Qu'ils ont trouvé là-bas.
Merci Raphaël pour ce témoignage qui dit plusieurs choses, qui dit effectivement que parfois, effectivement, la prison peut être bénéfique, mais que effectivement, très souvent, c'est tout et son contraire, en fait, aussi le nid à des problèmes derrière. Christophe Barret, j'ai cette curiosité. Est-ce qu'on est capable de repérer chez une personne qu'on a en face de soi si ça peut, celui-là, pourquoi pas aller l'enfermer? En tout cas, peut-être que ça lui rendrait plus service qu'une peine d'intérêt général ou l'inverse. Sincèrement, est-ce qu'on est capable de repérer ce genre de choses?
Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des professionnels qui interviennent, mais et qu'on ait des regards qui soient des regards multiples. Et c'est notamment l'utilité d'avoir un débat contradictoire, en particulier avec la défense, et puis vous le savez, lorsqu'il y a une victime, avec l'avocat de la victime. Mais je voudrais revenir quelques instants sur ce qui vient d'être dit. D'abord, évidemment, il y a une question de moyens. Ça n'est pas désobligeant et ça n'est pas inconvenant de parler des moyens. En France, on consacre à notre justice à peu près la moitié de ce que les Allemands consacrent à la leur. On peut évidemment pas faire la même chose avec un budget qui est moitié moindre. La deuxième chose, et c'est ce qu'illustrait votre auditeur, c'est que nous avons un principe qui est un très bon principe, qui est celui de l'individualisation des peines. Pour lui, c'était sans doute mieux qu'il soit incarcéré quelques jours. Pour d'autres, ça sera mieux qu'il puisse exécuter un travail d'intérêt général. Mais Étienne, l'auditeur qui intervenait tout à l'heure, expliquait que la prison, ça n'était pas bien. Peut-être, dans un monde idéal, ça n'est pas bien, mais c'est nécessaire. Et dans notre monde, qui n'est évidemment pas un monde idéal, même s'il y a des sociétés beaucoup plus violentes que les nôtres, il est nécessaire d'avoir, parmi les peines, les nombreuses peines qui sont à notre disposition, la peine d'emprisonnement. Je rappelle que s'il y a des taux de récidive, ou ce qu'on appelle des réitérants, c'est-à-dire des gens, la récidive c'est une notion juridique, mais des gens qui commettent à nouveau une infraction alors qu'ils ont été condamnés, on a des taux qui sont très élevés parmi les condamnés, parce que vous avez des gens qui ont beaucoup de mal, ou quelquefois qui n'ont pas la volonté de sortir de parcours de délinquance ou de criminalité. Et là, il est normal qu'il y ait une peine comme l'emprisonnement, qui consiste à punir, comme toutes les peines, à protéger la société, quelquefois d'ailleurs aussi à protéger le condamné, et puis à protéger l'avenir, et puis une fonction très importante de la peine, qui est celle de l'insertion ou de la réinsertion, c'est-à-dire que chacun retrouve sa place. Et la vocation, évidemment, de tout détenu, sauf exception, sauf les gens condamnés à la perpétuité, c'est de retrouver sa place dans la société. Donc évidemment, l'intérêt de la société est de préparer tout cela. Mais on ne peut naturellement pas se passer de la peine d'emprisonnement et dire par principe que c'est une mauvaise chose.
François, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous entendre dans le téléphone sonne. François, on vous écoute.
Merci. Oui, j'ai souhaité intervenir parce que j'ai été très surpris de la façon dont le débat était présenté. On disait, faut-il moins punir ? Et je crois que là, on pose très très mal le problème. On s'affronte entre laxiste et pénaliste dur et méchant. Le problème, c'est de punir différemment, de punir avec utilité.
Et si je puis me permettre, j'ai dit enfermer moins pour punir mieux. J'ai pas dit moins punir, mais allez-y.
Je crois avoir entendu moins punir, mais je crois que justement c'est compris comme tel par beaucoup de gens. On dit bon, on peut faire des délits jusqu'à 2 ans et il n'y aura pas de peine. Je crois que très peu de gens contestent la nécessité d'une peine. Il faut simplement que cette peine soit utile pour le délinquant et utile pour la société. C'était juste une remarque, mais je pense que les différents intervenants ont réussi un petit peu à rectifier les choses. Mais je crois très important quand même de dissocier la modalité de la peine avec l'absence totale de peine. Si je peux me permettre, je crois que c'est apparu lors des différentes interventions. Le nœud du problème, c'est le budget du fric. Du fric. Tant qu'un conseiller principal de pénitentiaire d'insertion et de probation ne pourra consacrer que quelques minutes en 2 mois auprès d'un détenu, qu'est-ce que vous voulez faire de l'individualisation de la peine ou de son aménagement ? Donc il faut du fric.
Et merci. On a bien compris votre question. Moi, je vais la poser comme ça, Julia Minkowski. Alors, du fric. Où est l'argent ?
Où est l'argent ? Oui, c'est la question qu'on peut poser. Malheureusement, nous évoluons dans un milieu contraint. Je crois que tout le monde en a conscience. Le budget de la justice, c'est dans la loi de programmation budgétaire, va être augmenté. Alors forcément, oui, ce n'est jamais assez. Ça, c'est certain. Il y a des allocations qui doivent prendre en considération l'environnement, encore une fois, contraint, dont je parlais tout à l'heure. On pourrait peut-être revenir juste un instant sur ce que disait Raphaël au sujet du travail d'intérêt général, car c'est une des mesures importantes qui ont été annoncées. Alors, Raphaël, il est un peu l'exception qui confirme la règle, parce que déjà, c'est la première fois que j'entends un condamné trouver que sa peine est trop légère. Et puis, il nous a dit que la prison...
C'est d'ailleurs un drôle de chiffre.
Ouais, enfin, c'est après réduction. Donc il avait été condamné, je pense, à plus d'un mois, puisqu'on pourrait dire, bah, vous voyez, bon. Le taux de récidive est donc de l'ordre de 40% pour les personnes qui ont un passage en prison. Il est bien plus faible que ça pour les gens qui ont effectué un travail d'intérêt général. C'est une peine qui est très bien comprise par les victimes, par la société en général. Et pour les condamnés, alors, Raphaël, il ne sait pas de quoi il parle puisqu'il n'a pas effectué de travail d'intérêt général. Mmh. Mais ça peut avoir une utilité assez forte de réinsertion sociale, voire
encore une fois, est-ce qu'il y a adéquation ? On se souvient de cet auditeur précédent qui nous suggérait, quand on a été violent avec une vieille dame, de l'envoyer dans un EHPAD, par exemple. Est-ce qu'il y a une vraie adéquation dans le travail d'intérêt général entre le délit et la peine ?
Ça, ce sera au magistrat d'en décider. Vous pouvez poser les questions aux intervenants qui sont là. Alors, la critique qui est faite, c'est de dire, oui, mais pourquoi est-ce que les travaux d'intérêt général ne sont pas prononcés ? Bah, c'est parce que les magistrats ne sont pas informés. C'est parce qu'il n'y a pas assez de place à disposition. Donc, ça, en réalité, c'est le constat qui a été fait, et c'est pour ça, et c'était une promesse de la campagne présidentielle, un rapport a été fait pour la création d'une agence du travail d'intérêt général. Ça a été mené par un député, Didier Paris, et un chef d'entreprise, David Layani. Ils ont prévu, évidemment, de mettre en œuvre des plateformes d'information pour que les magistrats puissent savoir en temps réel quelles sont les places disponibles. Et puis, ils prévoient aussi qu'il y ait davantage de structures éligibles à accueillir des condamnés à un travail d'intérêt général. Mais
j'imagine que toutes les entreprises ne se battent pas pour accueillir des gens en travail d'intérêt général, si ou pas ?
Non, puis les magistrats ne se battront pas forcément pour les mettre dans des entreprises type entreprise marchande, quoi. On attend un petit peu de voir comment ça va se formaliser, mais effectivement, on a besoin d'une aide à quelque niveau que ce soit pour multiplier le nombre de postes de TIGE. Pour avoir été juge d'application des peines, j'ai développé les travaux d'intérêt général sur mon ressort. Ça m'a pris un temps infini. En gros, c'était le seul projet sur lequel je m'étais concentrée pendant un an. Et j'avais un peu laissé tomber tout le reste, si ce n'est le travail quotidien, parce que ça demande vraiment beaucoup d'investissement.
Mais ce qui est difficile, c'est quoi en fait ? C'est d'arriver à trouver effectivement l'endroit
d'arriver
pour accueillir
des structures qui soient candidates pour ensuite accueillir des tigistes, comme on dit, des personnes qui vont effectuer leur tige. Le problème, c'est qu'en plus, vous avez des fois dans des ressorts qui sont des endroits un petit peu géographiquement isolés. Moi, c'était une zone montagneuse. Une personne qui est condamnée à un tige, éventuellement, elle ne peut pas se rendre à 30 km pour faire son tige tous les jours. Donc, il faut lui trouver un tige au plus près de chez elle. En général, ce sont les mairies qui finissent par se dévouer, mais toutes ne le veulent pas. Et donc, il faut mobiliser presque les 200 petites mairies que vous avez sur votre ressort. C'est extrêmement complexe.
Ce sera tout l'objet de l'agence, justement, d'alléger le travail des magistrats qui ont d'autres choses à faire que de passer autant de temps, ce que vous décriviez, pour trouver
les volontaires. Christophe Barré, à Montpellier, vous vouliez intervenir ?
Oui, notamment sur le travail d'intérêt général, ça fait partie des propositions qui ont été portées par la Conférence nationale des procureurs de la République, que je représente ici ce soir. Bien sûr, il faut le développer. Aujourd'hui, ça représente 6% des condamnations, donc vous voyez que c'est extrêmement faible. Alors, il faut développer l'offre. On a beaucoup de mal à trouver des postes de travail d'intérêt général. C'est nécessaire aujourd'hui dans une société où beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée sont externalisées, c'est-à-dire sont exécutées par des entreprises privées, par exemple le nettoyage, lorsqu'il s'agit de nettoyer les bus ou les trains, ce sont en général des entreprises privées qui le font. Donc ce sera quelque chose d'utile de pouvoir leur confier des tiges dans des conditions très particulières avec un contrôle strict. Mais il faut aussi dire qu'il y a un certain nombre de condamnés qui ne sont pas accessibles à un travail d'intérêt général. Il faut être capable déjà de respecter un horaire, de respecter des ordres qui vous sont donnés, d'exécuter convenablement un travail. C'est possible pour certains détenus, ça n'est évidemment pas possible pour tout le monde. Et il faut le dire, il n'y a pas de solution miracle. Personne n'a trouvé de solution miracle. Alors, là aussi, ce soir, le thème est plutôt l'emprisonnement. Juste un chiffre pour resituer les choses. La France se situe plutôt dans la deuxième moitié pour le nombre de personnes incarcérées pour 100 000 habitants. Il y a en Allemagne ou aux Pays-Bas ou en Italie, il y a un peu moins de détenus qu'en France, mais d'autres pays en ont beaucoup plus. Hein, c'est le cas notamment du Royaume-Uni ou de l'Espagne ou de la Pologne. Donc, bien sûr, il faut développer le travail d'intérêt général. Il faut développer les peines que nous pouvons exécuter grâce aux progrès techniques. C'est le cas du bracelet électronique, hein, avec aujourd'hui une proposition de peine qui est intéressante, qui est la détention à domicile, avec un contrôle électronique. Mais tout cela doit être fait, si j'ose dire, tous azimuts. On ne peut pas, il n'y a pas une seule solution qui nous apportera une approche définitive à tous nos problèmes.
Julia Minkowski, le fameux bracelet électronique, effectivement, à l'intérieur de la maison, pardon, j'y mets des guillemets encore, c'est pour qui ? C'est pour quel type de détenu qui peut faire sa peine chez lui, finalement ?
Alors déjà, le bracelet électronique, ça existe déjà. Et en effet, les personnes sont à domicile, ils portent leur bracelet et il y a des horaires qui sont fixés par le magistrat.
Non, forcément à l'intérieur de la maison.
Effectivement, une détention à domicile uniquement.
Et donc, dans le cadre de la détention à domicile sans surveillance électronique, qui en fait devient une peine à part entière, et ça c'est important, parce que ce sera plus simplement un aménagement, mais véritablement une peine pour qu'on comprenne qu'il s'agit bien d'une peine, parce qu'on parle de la prison, la prison n'est pas la seule peine, et tout le reste, y compris le travail d'intérêt général, constitue des peines, et ça, il y a une bataille culturelle à mener auprès aussi de l'opinion publique pour qu'ils comprennent ça. L'idée, c'est pas de ne plus punir, on y revient, mais de mieux punir.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, donc, y compris dans la manière dont l'auditeur perçoit ce que nous avons dit, en fait. Dès qu'on parle de moins de peines, on a l'impression qu'on punit plus, finalement.
Exactement, alors que c'est tout le contraire. La prison est une peine, et évidemment qu'il y a des cas où il est absolument indispensable d'écarter la personne de la société et qu'elle soit prise en charge en étant privée de liberté au regard de sa personnalité ou de la gravité des faits qu'elle a commis. Mais la détention à domicile sous surveillance électronique, dans ce cadre-là, il sera prévu aussi une possibilité de quitter son domicile dans des heures strictes pour des raisons préétablies comme son travail, etc. Ça ne pourra pas dépasser un an parce qu'en réalité, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant qui demande de l'autodiscipline. Au-delà d'un an, les acteurs que nous avons rencontrés et qui ont l'habitude, peut-être que les magistrats pourront répondre là-dessus, c'est extrêmement difficile et souvent il y a un échec, donc c'est pour ça que ce sera limité à un an. Mais enfin, ça permet, au lieu que des courtes peines soient effectuées en prison et ne viennent augmenter la surpopulation, que les personnes l'effectuent chez elles, éventuellement puissent continuer à travailler, voire l'effectuent dans des foyers. Enfin, il y a des pistes.
Il y a mille manières. Il y a mille manières à imaginer qu'on n'a pas encore imaginé. Peut-être, Christophe Barré, vous vouliez intervenir à nouveau.
Oui, je voulais quand même qu'on dise quelques mots des agents de l'administration pénitentiaire et des services pénitentiaires d'insertion et de probation qui travaillent, qui font un métier extrêmement difficile, qui le font dans leur quasi-totalité extrêmement bien, avec beaucoup d'engagement. Et c'est difficile, pourquoi ? Parce que on a une population difficile, pas tous les détenus, bien entendu, mais certains d'entre eux sont des gens extrêmement compliqués, extrêmement difficiles à gérer et extrêmement difficiles à réinsérer, puisque ça fait évidemment partie de leur mission.
Et merci. Juste un dernier mot, Sarah Guibaudou, allez-y, mais vous avez quelques secondes, pardon.
Juste vous donner un chiffre. Il y a aujourd'hui 10 000 personnes qui sont placées sous bracelet électronique. Donc c'est vrai que c'est une vraie peine. Il y en a qui renoncent, alors qui préfèrent aller en prison, ouais. Il faut le savoir. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'être enfermé finalement en prison ou chez soi, ça n'a pas grand intérêt en soi si on n'est pas quand même suivi par des conseillers d'insertion et de probation et s'il n'y a pas un travail de réinsertion qui est fait.
Et d'ailleurs, puisqu'on a pris du retard, comment se fait-il qu'au bout d'un an, il y en a qui craquent effectivement avec le bracelet électronique? Pourquoi c'est si compliqué ? Parce qu'après tout, aux yeux des gens, on est chez nous, il y a la télé, il y a la cuisine. Pourquoi c'est si difficile ?
En fait, la prison, dans ce cas-là, elle est dans la tête. Hein. On a ces quatre murs autour de chez soi. C'est chez soi. Donc, il faut effectivement une énorme autodiscipline pour se dire, à telle heure, j'ai le droit de sortir, mais à telle heure, je dois être rentrée. Et après, c'est fini.
Allez, ce sera le mot de la fin également. On est en retard, pardon.